Chapitre 4e. Ses idées littéraires. Comment Chateaubriand a-t-il compris l'art du poète et de l'écrivain? Ses idées sur ce point n'ont rien d'abstrait encore, rien de philosophique, et ne constituent point une théorie complète. Telle page du génie du christianisme sur l'idéalisme dans l'art ne doit pas faire illusion. Elle ne nous donne rien de pénétrant ni même de clair. Mais à défaut de théorie, il a mieux. Des vues instinctives toutes nouvelles, d'une portée infinie, et qui ont fait une révolution littéraire comme il n'y en avait pas eu de pareil depuis la Renaissance des lettres. Toute la critique et toute la poétique de Chateaubriand, comme aussi à très peu près toutes les inclinations de son esprit, se ramènent en leur source à sa répulsion à l'endroit du XVIIIe siècle. Il ne faut pas, sur certains détails, s'y tromper. Il loue Delille et même Esménard. Il cite Jean-Baptiste Rousseau. Les rêveries d'un promeneur solitaire lui plaisent. Il cite Voltaire, et un peu malicieusement, à savoir toutes les fois que Voltaire se trouve exprimer une pensée favorable au christianisme. Il admire le pinceau de Bernardin de Saint-Pierre, tout en remarquant qu'il n'a pas d'esprit, ni non plus de caractère. Mais ce sont là louanges un peu convenues, et qui ne sont pas données sans un certain air de négligence, ou procédés pour tirer à soi et ranger bon gré mal gré dans son camp les héros du jour. Quand il rencontre face à face et armé en guerre l'esprit même du XVIIIe siècle, il court sur lui comme à l'ennemi. Il est anti-philosophe. Madame de Staël venait, dans son livre de la littérature, d'exprimer à nouveau les idées chères à Condorcet sur le progrès indéfini du génie humain. « Vous n'ignorez pas, écrit Chateaubriand à Fontane, que ma folie à moi est de voir Jésus-Christ partout, comme Madame de Staël la perfectibilité. J'ai le malheur de croire, comme Pascal, que la religion chrétienne... Vous voyez que je commence par me mettre à l'abri sous un grand nom, afin que vous épargniez un peu mes idées étroites et ma superstition antiphilosophique. Là-dessus, il énumère tous les défauts et de pensée et de style de Madame de Staël, et il se demande d'où proviennent ces défauts. De votre philosophie. C'est la partie éloquente qui manque à votre ouvrage. Or, il n'y a point d'éloquence sans religion. Votre talent n'est qu'à demi développé. La philosophie l'étouffe. Si vous demeurez dans vos opinions, vous ne parviendrez pas à la hauteur où vous pourriez atteindre. » Voilà le fond de la critique de Chateaubriand. L'esprit du XVIIIe siècle étouffe la partie éloquente, élevée et poétique de l'esprit humain. Le XVIIIe siècle n'a pas connu la grandeur et ne s'est pas douté de la poésie. Pour les retrouver, il n'y a qu'à ne pas faire ce qu'il a fait et à croire ce qu'il n'a point cru. Je me permettrai d'ajouter ce qu'il pensait probablement sans le dire, le génie aidant. Prendre le XVIIIe siècle pour modèle à ne pas suivre, voilà une doctrine qui semble étroite et presque négative. Elle l'est infiniment moins qu'il ne paraît, qu'il ne paraissait aux hommes de 1800, qu'il ne paraissait à celle du XVIIe siècle, nullement. Et celle du XVIIe siècle ouvre-t-elle des voies nouvelles? Trouve-t-elle une inspiration générale qui lui soit propre et que l'école de Ronsard n'ait point connue? Pas davantage. Toute l'école classique, de Régnier à Chénier, et nonobstant des corrections, redressements et amendements de détails, remonte à Ronsard. Tout entière, elle s'est abstenue de prendre pour sa matière et d'avoir pour souci l'histoire nationale, la religion nationale, le génie de la race dont elle était. Que cela ne l'ait nullement empêché de compter les hommes d'un génie merveilleux, et aussi que dans cette communauté d'esprit général, il y ait eu de très grandes inégalités du talent de l'un au génie de l'autre, et encore qu'il y ait eu même des exceptions à cette loi commune, on le sait bien. Mais ce n'est pas à présent la question. Ce qu'il s'agit de savoir, quand un novateur vient dire qu'il faut rompre avec la tradition du XVIIIe siècle, c'est si, du même coup, ils n'auront pas, même sans le savoir, avec toute la tradition classique depuis 1550, et avec Racine, sans s'en douter, tout autant qu'avec Voltaire, et avec Boileau, sans qu'il y tienne, tout autant qu'avec Ronsard. C'est précisément ce que faisait Chateaubriand, et disons-le tout de suite, c'est ce qu'il avait raison de faire. En effet, voici ce qui était arrivé. La littérature classique française, née au XVIe siècle de l'admiration, très légitime, des chefs-d'œuvre anciens, et du besoin d'échapper à la puérilité du Moyen-Âge, avait d'abord imité servilement, et dans sa forme plus qu'en son esprit, la littérature antique. Elle l'avait imitée plus tard avec intelligence et hardiesse, et dans une mesure exquise d'adaptation avisée et judicieuse. mais encore imitait-elle, et avec une timidité singulière à l'égard de ses propres forces, si bien que tout autant par l'effet de sa timidité que par le prestige de sa perfection, elle avait conduit les esprits à cette idée qu'il faut imiter indéfiniment. Aussi les hommes du XVIIIe siècle imitent encore, mais ils n'imitent plus directement l'Antiquité. Ils imitent les modèles du grand siècle qui eux-mêmes sont déjà des imitateurs. Ils font des imitations d'imitations. Quand on en est là, il est peut-être temps de s'arrêter. Il en est temps parce que, l'art étant toujours un choix fait par l'artiste, selon son humeur, dans les traits multiples de l'objet qu'il veut peindre, le premier artiste, celui qui regardait le réel même, a déjà éliminé un certain nombre de parties de la réalité qui lui déplaisaient. Le second, qui fait son choix dans un premier choix, écarte encore une certaine quantité de réel et le champ du vrai va se réduisant indéfiniment jusqu'à ce que le dernier venu des imitateurs n'imite plus qu'une pure abstraction ou une convention creuse. On n'était pas loin de cette excessive frugalité à la fin du XVIIIe siècle. À la vérité, il ne faut rien exagérer, et les choses dans la pratique ne vont pas avec cette rigueur. D'une part, il y a une manière d'imiter qui n'est point un esclavage et qui admet une grande part d'observation directe de la nature. On imite, par exemple, les habitudes d'esprit et le tour de composition des anciens, et dans cette manière de moule, on verse beaucoup de matière puisée dans la réalité moderne qu'on observe. Ainsi font La Fontaine et Racine, et aussi un peu Chénier. D'autre part, dans tout ce qui, en littérature, n'est pas littérature pure, dans les ouvrages de philosophie, de politique, de sciences sociales, la nature même du sujet vous force bien à ne point être imitateur et l'originalité de l'esprit retrouve jour. Et voilà par où se sauvent et Voltaire et Diderot et Montesquieu. Problème sine matre creatam. Mais encore est-il que dans le domaine de l'art littéraire proprement dit et surtout de l'art poétique, l'inclination que nous dénoncions tout à l'heure était très marquée à la fin du XVIIIe siècle, et très grand le danger qu'elle contient. Remarquez d'ailleurs que vers 1800, et l'originalité dans l'imitation, qui distingue les grands artistes du XVIIe siècle, était trop loin dans le passé pour que le secret n'en fût pas perdu. Et le champ nouveau, celui des travaux politiques et philosophiques, trop décrié, au moins pour un temps, par la faute des révolutionnaires, pour qu'on ne s'en écarta point. D'où suit qu'il ne restait rien, rien que l'art d'imiter les imitateurs, c'est-à-dire le vide. C'est contre quoi Chateaubriand protestait de tout son courage. Il demandait qu'on arrêtât l'imitation indéfinie, que la France eût une littérature à elle et non d'emprunt, que puisqu'elle n'était point païenne, elle n'eût pas une poésie mythologique, que puisqu'elle était moderne, elle n'eût pas une littérature ancienne, que puisqu'elle existait, elle eût une littérature nationale. C'était réagir jusque par-delà 1550. Demandait-il autant que cela, me dira-t-on ? Mais vraiment, non pas beaucoup moins. Remarquez d'abord ses omissions. Dans toute cette partie du génie du christianisme, qui est ce qu'il appelle très bien une poétique chrétienne, il ne dit pas un mot de la Renaissance. Cela est bien significatif. Le mouvement d'esprit qui est pour tout classique, qui est pour tout historien de la littérature française, l'origine même de l'art classique en France, il évite d'en faire mention. C'est que là n'est point son objet. C'est ailleurs qu'il vise et qu'il tend. Il se montre constamment, avec une insistance un peu chagrine, énergiquement contraire à l'emploi de la mythologie. Elle rapetisse la nature. C'est le christianisme qui, en chassant ces petites divinités des bois et des eaux, a seul rendu aux poètes la liberté de représenter les déserts dans leur majesté primitive. Désormais libres de ce troupeau de dieux ridicules qui les bornait de toutes parts, les bois se sont remplis d'une divinité immense. Même pensée en cent endroits. Voilà qui est bien, mais qu'est-ce à dire? Cette première démarche va très loin. Si la poésie classique française a adopté la mythologie antique, ce n'est pas pour la mythologie seulement, c'est pour l'Antiquité. C'est qu'elle a cru qu'il y avait deux choses, et si étrangères l'une à l'autre, que ce serait un sacrilège de les unir. L'art d'une part, qui descend d'Homère, et qui a sa conception de l'homme, sa manière de voir le monde, sa religion, et que nous devons accepter, entretenir et transmettre avec sa religion, sa philosophie et sa morale. Le vrai, d'autre part, qui vient de Dieu, que nous devons mettre dans notre vie et dans nos actes, serrer et chérir dans nos cœurs, mais qui n'est pas matière d'art, et que nous déshonorerions en faisant une tragédie ou une épopée. Tout le champ 3 de l'art poétique est fondé sur cette distinction de la foi d'un chrétien, les mystères terribles. D'où il suit que c'est parce qu'il est chrétien que Boileau ne veut pas de christianisme dans la littérature. Il pousse le scrupule chrétien jusqu'à ne parler en vers que de Jupiter. Chateaubriand, parce que chrétien, repousse la mythologie de l'œuvre d'art. C'est donc qu'il abolit l'ancienne distinction et, unissant l'art et la foi, le vrai et le beau, va demander un art chrétien. C'est précisément ce qu'il fait. Mais voilà tout l'esprit de la littérature classique heurté de front et bouleversé. Poursuivons, comme aussi bien il poursuit lui-même. S'il aime tant l'inspiration chrétienne, il va la chercher et l'admirer s'il peut au Moyen-Âge, puisque c'est l'époque de l'humanité où le christianisme a été le plus cordialement adoré. Il n'y manque pas, et ne pouvant guère admirer la littérature de ce temps-là, peu connue aux siens, il goûte et cherche à faire goûter la véritable poésie du Moyen-Âge qui est dans ses monuments. Et voilà l'architecture gothique préférée à l'architecture grecque, et encore, l'esprit classique français blessé en un endroit des plus sensibles. Mais si l'inspiration chrétienne est si belle, l'antiquité grecque et latine vont déchoir dans l'esprit de notre critique. N'en doutez pas, et pour lui, Virgile est beau, Homère est plus beau, mais le plus beau poème que les hommes aient jamais pu lire est la Bible. Voilà le dernier coup. Ce n'est pas seulement les classiques français qui ont tort envers français d'être païens, c'est les classiques païens qui perdent à l'être. C'est l'antiquité classique, non pas méprisée, mais dépossédée de sa royauté et rabaissée, non pas seulement en la personne de ses imitateurs, mais en elle-même. Que reste-t-il de l'esprit littéraire qui dérive de la Renaissance et même de toute la littérature classique française? Il en resterait ce qui ne vient pas directement de l'Antiquité et ne s'y rattache point, la littérature politique et philosophique, l'essai sur les mœurs, le contrat social, l'encyclopédie. Mais nous savons que c'est là, sauf exception pour Montesquieu, ce que Chateaubriand déteste de la haine la plus vigoureuse. Il en resterait encore la morale, les vues sur l'homme, ce que l'on pourrait appeler la littérature psychologique, si brillante en France, comme on sait, au siècle classique. Mais ici encore, faisons attention et sachons distinguer. La morale pénétrée de l'esprit chrétien, celle de Pascal et des sermonnaires, il va sans dire qu'elle est non seulement acceptée de Chateaubriand, mais comblée de louanges par lui. Mais cette autre morale, car il y en a une autre dans les œuvres classiques, cette morale, lègue encore de l'Antiquité, plus stoïque que chrétienne, montrant l'homme très grand, très fort, allant très haut par ses propres forces. Cette morale, qui a souvent et très heureusement inspiré Montaigne, et souvent Balzac, et presque constamment Corneille, et souvent Saint-Evremont, Racine, Boileau, Vauvenargues, remarquez que ceci encore, Chateaubriand l'écarte ou s'en défie. Il remarque très judicieusement, et il pose en principe que le christianisme a eu pour principal effet de renouveler le fond moral de l'homme. La morale antique prescrivait à l'homme d'être vertueux par estime de soi. La morale chrétienne prescrit à l'homme de ne se point estimer, de se croire faible et chétif, de fonder sa foi et son espérance ailleurs qu'en lui. Si bien que la première vertu antique se ramène à être l'orgueil, qui est pour le chrétien le premier des péchés capitaux. Tout ce qui est morale antique, vertu stoïque, héros de Plutarque, dans la littérature classique française, pour Chateaubriand, est donc faux. Et voilà encore une des sources de l'inspiration classique qui est dénoncée comme suspecte. De tout ce qui a été la matière même de la pensée littéraire et poétique en France depuis Ronsard, on voit qu'il n'est presque rien que Chateaubriand n'ébranle, n'attaque ou n'atteigne. Ai-je besoin de dire qu'il n'y met pas cette rigueur que nous y mettons pour le résumé, ni surtout cette suite? Le génie du christianisme, et Dieu merci, n'est rien moins qu'un ouvrage de dialectique serrée et pesante. C'est une série de digressions brillantes sur les sujets que nous venons d'indiquer et sur beaucoup d'autres, mais toutes les idées si nouvelles et hardies que nous venons d'énumérer y sont plus qu'en germe, à l'état soit de tendance, soit d'observation, soit de déclaration formelle. Mais enfin, notre dédaigneux novateur va-t-il être amené à dire que, faute d'esprit chrétien, il n'y a pas eu de grande littérature en France depuis 1550 jusqu'à lui, il est bien loin, sinon par modestie, du moins par bon goût littéraire, d'avoir une idée pareille. D'abord, il est bien entendu que les grands et sincères chrétiens qui se sont trouvés être des écrivains et consacrer leur plume à la défense de la foi sont en dehors du débat. Il y a Bossuet, il y a Fénelon, il y a Pascal. De plus, les grands écrivains classiques se sont oubliés quelquefois être chrétiens en littérature. Il y a Polyeucte, il y a Attali, et par un retour piquant, voilà ces œuvres contestées par la critique de leur temps à cause de leur christianisme, qui sont replacées au plus haut sommet par Chateaubriand parce qu'elles sont chrétiennes. Il y a même Voltaire dans Alzire et ailleurs, et c'est un divertissement pour Chateaubriand de le féliciter des belles choses que le christianisme lui a inspirées. Enfin, Chateaubriand use ici d'un détour bien ingénieux. Si les œuvres poétiques du XVIIe siècle ont été si admirables, encore qu'elles ne fussent point chrétiennes, c'est qu'elles l'étaient sans le savoir, et bon gré mal gré recevaient l'influence indirecte mais puissante de l'esprit chrétien. Vous ne voulez point être chrétien dans vos ouvrages, poète français des siècles classiques, mais vous l'êtes en vos cœurs. Et quelque effort qu'on y fasse, on ne sépare point son esprit de son âme pour donner l'un à l'art et l'autre à la foi, l'une à la vérité et l'autre au beau. Du cœur au génie, quelques doctrines qui répugnent et quelques théories d'école qui s'interposent, il se fait des communications invisibles et involontaires, et votre art a profité de ce dont vous étiez plein en votre âme, de cela même que votre goût lui refusait. Polyeucte est chrétien volontairement, mais l'Auguste de Sina laissant le savoir, parce que le poète qui l'a conçu était chrétien. Esther est une vraie chrétienne et l'auteur a voulu qu'elle le fût. Mais Andromaque est la mère chrétienne, sans qu'elle s'en doute. Iphigénie, la fille chrétienne, sans qu'elle y prétende. Phèdre, une pécheresse et une damnée, quand elle croit n'être qu'une coupable. Et Arnaud, qui s'y complaît, ne s'y trompe pas. Et s'il trouve ce drame innocent, c'est qu'il le trouve chrétien. Ainsi de suite. Cette théorie n'est pas seulement très spirituelle. Elle contient une part de vérité. Elle vaut qu'on l'examine de très près. Ce qu'au fond elle soulève, c'est la question de l'art impersonnel. Est-elle fondée en raison, cette distinction que Boileau faisait avec ses contemporains, entre l'homme qui sent, croit, aime certaines choses, et ce même homme, la plume en main, exprimant et peignant d'autres sentiments, d'autres passions et d'autres croyances? Est-il bon, est-il selon l'art, que l'artiste se mette lui-même avec ses sentiments vrais et intimes, mette l'homme intérieur dans son œuvre? Au contraire, est-il bon, et aussi est-il possible, qu'il n'y mette qu'autre chose, à savoir l'âme étrangère, de païen s'il est chrétien, d'ancien s'il est moderne, d'espagnol s'il est français, que par la force de son génie d'artiste il a su se faire? On discute là-dessus. Les uns disent que c'est la définition même de l'art que de mettre autre chose que soi dans son œuvre, que celui qui se verse lui-même dans son ouvrage ne crée pas, que seulement il s'épanche, qu'il n'a en lui qu'une matière infiniment restreinte et pauvre, et que dans son âme étroite il est toujours captif, que l'art consiste au contraire à sortir de soi, à comprendre les objets les plus divers, à s'y unir, à s'y mêler, à en arriver à les sentir comme s'ils étaient notre fond propre, et alors à les exprimer comme s'ils sortaient de notre cœur. Les autres disent que cela n'est ni bon, ni même possible, que nous ne pouvons jamais exprimer autre chose que ce que nous sommes, que quand nous peignons des choses extérieures à nous, ce n'est point du tout que nous nous soyons transformés en elles, mais que nous les avons transformées en nous-mêmes, et que l'auteur le plus curieux de ne point nous donner des confidences ne réussit jamais, dans ses ouvrages, à ne se point peindre. En théorie, je ne sais où elle œuvrait, mais dans la pratique, il est bien certain que l'art n'a jamais été exclusivement personnel, ni impersonnel absolument. Il y a des degrés. Certains artistes aiment surtout à se livrer à nous, mais encore c'est leur âme empreinte et pénétrée d'une foule d'impressions extérieures, et par conséquent beaucoup d'autrui avec eux-mêmes qu'ils nous livrent. Certains aiment à dérober leur personne et le fond de leurs sentiments propres et à n'exprimer que l'âme des autres, mais encore cette âme des autres, c'est avec la leur qu'ils l'ont sentie, et il reste de leur accent dans la manière dont ils font parler autrui. Chateaubriand a donc raison quand il croit que dans les peintures qu'ont faites les artistes du XVIIe siècle de l'âme antique, il y a des traces, et nombreuses, de leur manière de sentir. mais il n'a raison qu'en partie, précisément parce que les hommes dont il nous entretient sont de très grands artistes qui ont su, sinon complètement, je l'accorde, du moins avec une extraordinaire puissance, se transformer en ceux-là même qu'ils voulaient peindre et devenir espagnol pour nous faire le Cid et romain pour nous faire Horace, de telle sorte, ce qui gêne bien la théorie de Chateaubriand, qu'ils s'y sont montrés plus espagnols et plus romains qu'un romain ou un espagnol sans génie n'aurait pu être. Même dans le domaine de la foi, Chateaubriand devrait bien remarquer que Racine, chrétien de cœur, est beaucoup plus biblique que chrétien dans Athalie. C'est donc moins une raison forte qu'un argument habile où il a été entraîné par sa chaleur à défendre sa thèse que Chateaubriand nous donne ici. Il faut remarquer ici pourtant que c'est un peu plus qu'un argument, c'est très probablement une conviction. Si Chateaubriand n'a point de penchant à croire à l'art impersonnel, c'est que le sien, je ne dis pas est tout personnel, nous verrons que tant s'en faut, mais garde beaucoup de traces de sa personne. Dans tous ses ouvrages d'imagination, Atala, René, Martyr, Natchez, Itinéraire, Mémoire, Rancé, qu'il peigne chaque tasse, Eudore, René, Rancé ou Monsieur de Chateaubriand, sa jeunesse, sa vie à Londres, l'Amérique et la campagne de Flandre reparaissent toujours. Et comme avec cela il se sent très grand artiste, quoi d'étonnant qu'il ait peu cru, chez les artistes, à l'habitude et à la puissance de sortir de soi. Quoi qu'il en soit, voilà la tradition brisée. Plus d'esprit antique, plus de religion antique, plus de morale antique. Soyons français, chrétiens, modernes et nous-mêmes. La littérature d'imitation, même libre, est une erreur. La littérature classique s'est trompée. Le génie du christianisme, considéré comme œuvre de critique, était le signal de temps nouveau, l'appel à des inspirations nouvelles. La révolution littéraire était consommée. La littérature moderne naissait. Mais quelles inspirations nouvelles ? Voyez ce qu'ont fait les anciens. Il ne faut pas imiter les anciens. Il faut faire comme ils font, ce qui n'est pas la même chose. Ils ont chanté leur Dieu, leur patrie et eux-mêmes. Faisons des œuvres nationales, des poèmes chrétiens, des poésies élégiaques ou lyriques où nous révélerons les sentiments vrais de notre cœur. Écrivons le génie du christianisme, les harmonies poétiques et religieuses, Moïse, Éloah, la prière pour tous. Disons ce que nous éprouvons. Écrivons René, l'itinéraire, les méditations poétiques, les feuilles d'automne. Chantons l'épopée de Dieu, écrivons les martyrs, la chute d'un ange, le sacre de la femme, beaux endormis. Mais ici, il y a une difficulté. Un poème épique chrétien n'est pas chose qui va d'elle-même avec du génie, comme une effusion religieuse ou une confidence sentimentale. Un poème épique doit être construit. Certains artifices de composition y sont nécessaires. Le plus connu, c'est l'emploi du merveilleux. Le merveilleux est considéré jusqu'à l'époque où écrit Chateaubriand comme un ressort ou une machine essentielle à l'épopée. Les poètes de l'ancienne école, imitant les anciens, usaient du merveilleux mythologique. Y a-t-il un merveilleux chrétien dont nous puissions nous servir? Les mystères terribles de la foi, comme dit Boileau, peuvent-ils devenir machines poétiques? Pourquoi non? Si nous sommes chrétiens, les choses de la foi sont des choses aussi réelles dans notre cœur que nos sentiments et nos passions. La religion est une passion elle-même. Employons notre Dieu, nos anges, nos démons comme ressorts de nos épopées religieuses. Comme au Moyen Âge, précisément, et là comme en tout, sa théorie entraîne Chateaubriand au-delà de 1550. Il va faire ce qui paraissait si ridicule à Boileau. Jouer les saints, la Vierge et Dieu par piété. Exactement. N'est-ce pas enfin aller trop loin et s'égarer? Il est bien délicat d'être d'un avis tranché dans un sens ou dans un autre en cette affaire. Voici les traits généraux de la question. Oui, le sentiment religieux est une force morale et par conséquent une matière aux mains de l'artiste. Oui, la religion aussi est une passion, mais à la condition qu'on l'éprouve, et qu'on l'éprouve non pas seulement en ce sens que l'on croit, mais qu'on l'éprouve bien comme passion, avec ardeur, entraînement, exaltation de l'âme. Alors oui, Dieu, les anges, les démons seront objets si présents à notre pensée et que nous sentirons à tout instant si voisins de nous que les voir en un poème mêlé aux affaires humaines et même sur la scène mêlée aux personnages ne nous étonnera nullement. Mais si les passions ordinaires de notre faible nature sont tellement voisines de nous à tout moment que nous entrons de plain pied dans toute œuvre d'art où elles sont peintes, il est évident que la religion, à l'état non de croyance mais de passion, est beaucoup plus rare. Il faudrait, pour pouvoir en user en toute liberté, être dans un temps et dans des conditions telles qu'elle fût naturellement éprouvée à l'état de passion et par les personnages du poème et par l'auteur et par les lecteurs. Qu'Homère en son temps mêle les dieux aux hommes, qu'un poète du Moyen-Âge montre une communication constante entre l'enfer, la terre et le ciel, que Milton même nous peigne Dieu et Satan à côté du premier homme, ils le peuvent. Leurs lecteurs et eux-mêmes sont des croyants et des croyants passionnés. Mais déjà le merveilleux de Virgile est brillant, gracieux mais froid. C'est que son public est peu croyant et que lui-même, son enfer le prouve assez, est plus philosophe que païen. Il s'agit donc, en pareille matière, sans qu'il puisse y avoir de règles précises, de ne se tromper ni sur soi-même ni sur son temps. Il faut être bien sûr de soi d'abord, et non seulement de ce que l'on croit, mais de la profondeur de passion avec laquelle on aime sa croyance. Ne pas prendre, comme il peut arriver, une exaltation en partie artistique pour un entraînement de piété ardente. Ne pas supposer que M. de Chateaubriand, chrétien d'hier, et un peu par goût pour l'architecture ogivale, pourra être le Dante français. Il faut être bien sûr de son temps ensuite, car à se tromper de date en cette affaire, il arrive de singulières choses. Par exemple, qu'au Monseigneur de Cambrai, en un siècle chrétien, écrive Télémaque, et Chateaubriand, en un siècle moins croyant, les martyrs, de belles œuvres, mais qui ne pouvaient pas ne pas être en partie artificielles. Voilà les difficultés de l'emploi du merveilleux. Il est un cas où il n'y aurait aucun risque à courir, le génie d'ailleurs étant toujours supposé. Que le merveilleux soit le fond du poème chrétien comme il est le fond du christianisme, mais qu'on ne croit pas nécessaire de l'exposer matériellement aux yeux, de décrire un paradis, un enfer, un purgatoire, les difficultés à cela étant grandes et le danger inquiétant. Qu'ils aient leur part dans le drame, et la principale encore, et comme indéfinie au contraire, par toute la force dont ils pèsent sur les dessins de nos héros. Ce ne sont pas eux que le lecteur veut précisément qu'on lui montre, ce sont des âmes qui y croient. Ce ne sont pas les merveilles qu'ils contiennent, ce sont les merveilles qu'ils inspirent. C'est même se tromper, en une certaine mesure, sur l'esprit de la religion moderne et sur le génie du christianisme, que de ne point s'aviser que si dans le paganisme, le merveilleux est dans l'incarnation brillante et prestigieuse des mythes, en une religion spiritualiste, il est dans la profondeur sacrée des cœurs. Le merveilleux chrétien, c'est une âme chrétienne. C'est la force inconnue qui s'élève en elle, l'enivre et la pousse au martyr. Chateaubriand, qui a écrit de si belles pages sur cette idée qu'il n'y a de poétique que ce qui est mystérieux, aurait dû sentir que la grande poésie chrétienne est dans la peinture de ces grandes âmes qu'envahit peu à peu et inonde le mystère redoutable et infini qu'elles portent en elles. Corneille, dans sa tragédie sacrée, ne nous a pas montré le ciel ouvert, comme aurait pu faire un naïf poète du Moyen-Âge. Pauline et le public le voient dans les yeux de Polyeucte. Avec leur témérité et leurs points faibles, telles sont les idées littéraires de Chateaubriand. Elles sont profondes, elles sont nouvelles, et en leur ensemble elles sont justes. Pour leur temps, elles sont étonnantes. Qu'un ami de Fontane, et très respectueux de ses conseils, les ait eus, cela marque une liberté d'esprit dont il y a peu d'exemples en littérature. Elles étaient infiniment fécondes. Elles détruisaient des préjugés tenaces et nuisibles. Elles affranchissaient les esprits. Elles indiquaient des sources d'inspiration presque nouvelles, ou délaissées, ou très sottement méprisées. Elles contenaient un appel puissant à la poésie qui semblait s'éloigner de nous. Elles frappaient de discrédit un système littéraire épuisé. À l'aide d'un artifice d'argumentation qui renferme encore une part de vérité, elles annonçaient une littérature nouvelle, sans permettre qu'on méprise à l'ancienne et en lui conservant un très haut rang. Elles prévoyaient en grande partie le XIXe siècle littéraire et elles lui permettaient de naître. Ces idées, Chateaubriand les a suivies lui-même et en a rempli le dessin. Nous verrons qu'il les a dépassées aussi et que si, rien que par elles, il est déjà l'initiateur de l'art moderne. Par le tour de son génie et l'influence qu'il a exercée sur les imaginations, il a ouvert plus de chemin encore et encore agrandi l'empire de l'art.